Bienvenue sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Je suis Tanguy de Bangui, cofondateur de Black Network, le réseau des assoiffés de réussite. Le but de ce podcast est de vous inspirer en vous montrant des personnes ordinaires qui se donnent les moyens de réaliser des choses extraordinaires. Tous les vendredis, on dissèque le parcours d'un ou d'une invitée pour découvrir les stratégies qu'il ou elle utilise pour atteindre ses objectifs. Prenez place, c'est parti. Madame Marie-Yvonne d'Almeida, bonjour.
Bonjour, monsieur Tanguy de Bangui.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Très bien. Je suis content de te re-recevoir sur Kalimandjaro, c'est pas la première.
Yes.
On avait fait c'était l'épisode, j'ai trouvé 202. Donc c'était il y a 26 ou 27 épisodes maintenant.
Exact.
Et je m'étais dit déjà, même à ce moment-là, quand on a fait l'épisode, comme c'était le seul épisode en duo qu'on a fait, j'ai dit à Kevin, c'est dommage quand même, parce que Marie, son expérience au Sénégal, là, j'ai envie d'en savoir plus.
Ah.
Donc je m'étais toujours dit qu'il allait falloir qu'on refasse un épisode pour creuser un peu certains aspects que tu as juste évoqué et qu'on n'a pas creusé la dernière fois.
C'est ça.
Et en plus, comme tu amène encore une cohorte bientôt au Sénégal. Donc c'est l'occasion de promouvoir un peu ton activité.
Un petit peu.
Donc la dernière fois, tu avais dit, toi, ton objectif, c'était de créer des champions africains.
Et toi, tu commences déjà.
Là, je commence direct. Je t'attrape à la gorge tout de suite, tu vois. Non, mais c'est ça, c'est ton objectif, ton rêve.
Ouais, mon rêve, c'est ça.
Est-ce que tu veux qu'on commence déjà par poser la question, qu'est-ce que tu entends par champion africain ? Est-ce que depuis la dernière fois, tu as réfléchi à ce sujet ou pas ?
Non, je pense que c'est toujours pareil. Aujourd'hui, dans nos pays d'Afrique, on a plein de champions qui ne sont pas nationaux, qui ne sont pas noirs, qui sont d'autres communautés. Et ayant vécu sur place, bah, ça m'a toujours un peu froissée. Donc je me suis dit, un jour, j'accompagnerai ces personnes à être champions, des champions nationaux. Après, il y a différentes définitions qu'on met à champions nationaux et je pense que c'est ça le sujet.
C'est le vrai sujet. Tu sais que c'est sur ça que je vais te travailler.
Exactement. Donc ouais, pour moi, un champion nationaux, c'est pas forcément celui qui fait du chiffre d'affaires jusqu'à exploser les compteurs. C'est surtout quelqu'un qui impulse quelque chose. C'est surtout quelqu'un qui donne envie. C'est quelqu'un qui se met à nu limite pour aller au bout de son idée et qui impacte aussi le monde, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui en Afrique, la moyenne d'âge, c'est 19 ans. Donc on a un réel sujet.
Ouais.
Et c'est pour moi, impacter, c'est pas forcément impacter avec l'argent. C'est aussi impacter par de la formation. C'est impacter aussi, donner un souffle nouveau aussi à cette jeunesse-là. Donc voilà, il y a plusieurs manières pour moi d'impacter, mais pas forcément de faire beaucoup de CA.
Beaucoup de CA. Moi, la question que je me posais, c'est quelle boîte, pas forcément en Afrique, en général, quelle boîte tu vois et tu te dis, ça, c'est un champion, ça.
Bah, moi, je pense Dangote, okay. Quand on connaît le parcours, il est parti de rien et il est arrivé là où il est. Donc, pour moi, Dangote, c'est une référence. Après, pour être encore plus près, Philippe Simot, tout simplement. Je trouve que il a réussi à deux niveaux. C'est-à-dire que il a réussi à changer la mentalité.
Ouais.
C'est-à-dire à dire, OK, on est africain, mais on est capable de faire. Donc, je trouve que ça, pour moi, c'est ça le gros impact. Et Philippe Simot, il fait du CA, c'est vrai. Et il développe plusieurs entreprises. Donc, pour moi, c'est une réussite. Mais moi, c'est d'abord le Philippe Simot de il y a quelques années qu'on voyait, qui débutait et qui a réussi à switcher. Il y a des gens qui ont complètement switché et je pense qu'on est un peu tous le fruit de ça aujourd'hui. Et c'est important pour moi. Donc ouais, c'est deux exemples. Après, il y en a plein d'autres et il y a plein d'autres champions nationaux qu'on ne connaît pas aussi.
Totalement. Ce qui est dommage.
Parce que voilà, parce que les réseaux sociaux fait que bon, si tu passes pas dans les réseaux sociaux, tu n'es rien. Mais il y en a dans l'ombre qui font beaucoup de choses.
Et il y en a qui sont sur les réseaux et qui font rien.
Et qui font rien, on est d'accord. Qui font en soi-disant, ils ont levé des fonds par-ci, ils ont fait par-là, là. Bon, ouais, mais bon, dans le vrai, dans le dur, pas plus que ça en fait.
Totalement. Philippe, la dernière fois, je lui disais que là où je trouve qu'il a été fort, c'est que tu as dit qu'il a fait switcher. C'est qu'en fait, il a permis de réaliser que des Noirs
peuvent se réunir, peuvent être visibles sur d'autres sujets que la danse et plus largement l'entertainment, ouais, tu vois. Ou même, il a réussi à faire des sujets d'investissement, de business, des sujets d'entertainment.
C'est clair.
Et je pense que il y a presque un avant et un après, tu vois. Et c'est là, effectivement, où je pense qu'il a été très fort. Et l'impact, en fait, toi, ce qui te tient beaucoup à cœur, j'ai l'impression, c'est l'impact. L'impact. Ouais. C'est ça.
C'est l'impact. Parce qu'un impact, ça... c'est quelque chose qui te reste à vie, en fait. Et une fois que ça rentre en toi, c'est fini, en fait. Tu peux... C'est-à-dire que là, tu peux dépasser n'importe qui, n'importe quand, en fait. Donc l'impact, pour moi, c'est la base, en fait. Et c'est ce qu'on fait dans nos accompagnements. On cherche vraiment à développer l'entrepreneur avant même de développer l'entreprise. Parce que si l'entrepreneur n'est pas développé, l'entreprise, elle ne va pas aller loin. Ou même si elle va loin, il y a un moment donné où il y aura problème, en fait. Donc, moi, pour moi, c'est vraiment important de remettre l'humain, de remettre les valeurs, de remettre toutes ces choses. Et d'être un modèle, en fait. Ce qui nous manque crûment, on manque de modèles en Afrique, tu vois. Et ce n'est pas une histoire d'argent. C'est pas qu'une histoire d'argent. De toute façon, l'argent vient après, hein, automatiquement.
Pas forcément. Hein. Pour moi, c'est deux choses différentes. Mais
ça vient après. Ça vient, en fait. De toute façon, l'argent, si ça vient, ça va venir. Ça, c'est pas, c'est pas le problème.
Totalement.
Si t'es destiné à être milliardaire, tu le seras quoi qu'il arrive. Mais je veux dire, la graine que tu mets dans la tête des gens, moi, pour moi, c'est beaucoup plus fort que l'argent.
Est-ce que... Attends, avant d'expliquer clairement ce que toi, tu fais pour créer ces champions... Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, qui n'auraient pas écouté ce premier épisode?
Exact. Alors moi, c'est Marie-Yvonne d'Almeida. Je suis la fondatrice d'Autour de Marie, qui est un incubateur qui accompagne des porteurs de projets, des entrepreneurs qui sont déjà basés en France et des investisseurs à soit lancer leur business ou soit tout simplement investir en Afrique francophone.
D'accord. Focus Afrique francophone.
Focus Afrique francophone.
Pourquoi et pas les anglophones?
Parce que je maîtrise pas la culture anglaise et moi je suis quelqu'un, je vends pas du rêve, enfin j'essaie de ne pas vendre du rêve, c'est le Sénégal que je connais et je sais que tous les pays limitrophes ont un peu la même culture, voilà, c'est ce que je connais.
D'accord. Et pour revenir un peu sur ton histoire, ce qui nous a manqué, je disais la dernière fois, toi t'as grandi au Sénégal, t'es venu ici... Pas adulte, mais un peu... T'étais jeune?
Alors, moi, je suis née en France.
Ah,
ça,
d'accord.
Déjà, il faut lever le truc. Parce que beaucoup de gens pensent que je suis née en France.
C'est toi qui as dit que j'ai grandi au Sénégal, tu me dis toujours ça.
Je suis née en France et j'ai quitté la France à 21 ans. C'était en 2007.
Ah, mais parce que moi, en fait, t'as dit que tes parents étaient venus.
Ouais, mes parents...
Mais ils sont venus avant toi, donc avant que tu naisses, c'est ça?
C'est ça. Okay. Ils sont venus comme tous nos parents. Ils sont venus.
Ok.
Moi, je suis née à Montrouge. Voilà, j'ai grandi à Montrouge. Et à 21 ans, j'ai décidé de tout claquer pour aller vivre au Sénégal.
C'est ça.
À une époque où tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu vas foutre en Afrique, au Sénégal?
C'était pas sexy, au Sénégal, à l'époque.
C'était pas sexy.
Ouais.
Donc, c'est ça.
D'abord, tu viens, au début, tu y vas pour faire travailler dans le tourisme. Je me souviens,
chef de projet dans du tourisme d'affaires, parce que c'est ce que j'ai appris. Tourisme d'affaires, donc j'ai la chance de pouvoir collaborer avec des entreprises sénégalaises, parce que c'était ça, on m'avait recruté pour ça.
Ouais.
Pour développer, en fait, le tourisme d'affaires, tout ce qui est organisation d'événements, pour le marché local.
Ok.
Donc j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec plein d'entreprises sénégalaises. Et ce qui m'a permis d'avoir un réseau. Et puis de découvrir aussi plein d'autres régions du Sénégal, parce que quand on est dans le tourisme, forcément, on bouge. On bouge jusqu'en Gambie, enfin, tu vois, donc ça m'a permis d'avoir un autre regard d'une Afrique où j'avais l'habitude d'y aller, mais en tant que vacancière. Chaque année, j'ai eu la chance, moi, d'y aller chaque année. Et c'est vrai que j'arrive au Sénégal et je me rends compte, mais en fait, les pépites, elles sont là, quoi, en fait, tu vois. Les gars, ils font des choses à partir de rien. Et je me dis, mais c'est pas ce qu'on nous a vendu, nous, quand on était en France.
Ouais.
Tu vois.
C'est quoi la plus grande différence, la plus grosse claque que tu prends quand tu y vas en tant que professionnel par rapport à quand tu y allais en tant que vacancière?
En fait, la grosse claque, c'est les gens se débrouillent avec ce qu'ils ont. Et ils font ce qu'ils doivent faire avec ce qu'ils ont. Chose que nous, on n'apprend pas, nous, enfants de diaspora, on ne connaît pas, tu vois. Et c'est moi, c'est ça qui m'a marqué, parce que c'est pas ce qu'on nous disait. C'est pas ce qu'on nous disait. Nous, on nous vendait, ouais, on s'est fait arnaquer. L'Afrique, c'est que des truands. Voilà, les gens, ils sont pas formés, etc., etc. Mais en fait, en réalité, ils sont pas formés, mais ils sont tellement débrouillards, finalement. Et pour moi, c'est la plus grande école de la vie, en fait. Savoir se débrouiller avec ce qu'on a. Pour moi, une fois qu'on t'a formé ou une fois qu'on t'a mis sur un chemin, après, tu vas exploser tout le monde, tu vois. Et c'est ce que je retrouve, et je me dis, mince, le jour où je rentre à Paris, il faut absolument que je montre ces pépites-là. Parce que pour moi, c'est des pépites, en fait.
Ouais.
Et c'est ce qui s'est passé.
D'accord. Est-ce que tu as des exemples de pépites? Tu disais, ah, celui-là, ce qu'il fait là, c'est incroyable.
Bah, moi, juste moi, dans l'entreprise que j'avais, parce que j'ai été ouais, salarié, mais j'ai été aussi entrepreneur. Et en fait, moi, j'arrive dans une boîte où je connais rien. C'est du nettoyage industriel. Bon, moi, j'adore faire le ménage, mais ça reste le ménage, quoi.
Ouais.
C'est pas, voilà. Donc, j'arrive dans une boîte où c'est les gars qui m'apprennent à nettoyer une voiture. C'est les gars qui m'apprennent à faire des fins de chantier. Et en fait, c'est des gars qui sont pas allés à l'école. C'est des gars qui parlent limite pas français, tu vois, mais qui ont une organisation... qui se débrouillent avec les moyens du bord pour faire leur taf, tu vois. Et je me dis, ah ouais, ok. Et moi, je viens avec mes grands sabots en pensant que je vais tout révolutionner. Et je me rends compte qu'en fait, c'est eux qui m'apprennent.
D'accord.
Tu vois.
Mais pourquoi tu te lances dans le ménage industriel, du coup? Alors
parce
que ton métier, t'aurais pu déjà faire autour de Marie, en vrai.
Ouais. Non, j'aurais pu. Mais c'était pas... je t'avoue que c'était pas... autour de Marie, ça a été, je pense, un petit concours de circonstances aussi.
Ok.
Mais pourquoi? Parce que j'en avais marre d'être dans le salariat.
Ouais. Mais pas dans le tourisme. C'est pas le tourisme.
Non,
qui
c'est pas le tourisme en soi. Non. C'est juste que j'avais envie de changer. Je venais d'avoir deux enfants. J'ai eu deux enfants, moi, en même temps, presque.
Dont un que t'as accouché au Sénégal.
C'est ça. Le premier est né à Dakar. La deuxième est, je suis arrivée ici. J'ai accouché ici. Mais il y avait un an de différence.
Ouais.
Et je me suis dit, mais moi, j'ai quand même envie de voir mes enfants. Parce que quand on travaille dans l'événementiel, pour ceux qui connaissent le monde de l'événementiel, tu vois pas ta famille.
Ah, t'as pas de vie.
T'as pas de vie de famille. Soir, parce que tu travailles tout le temps. J'étais toujours en repérage sur le terrain. Donc, en fait, tu voyais pas ta famille.
Ouais.
Je me suis dit, deux bébés en même temps, là, il faut commencer à être sérieux quand même. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis, concours de circonstances aussi. D'un point de vue familial, il fallait que je reprenne cette société. En
fait, ok, tout simplement. D'accord.
Et donc j'ai repris cette société avec pas grand, enfin j'avais pas d'expérience vraiment.
C'est ça, pas de connaissances de l'entrepreneuriat plus
tout,
que ça.
Pas du tout.
Comment t'as fait alors?
Pas du tout. Je suis arrivée, je me suis dit bon, comment je fais pour améliorer? Parce que pour moi et ça c'est très français. Comment on fait pour structurer? Comment on fait pour faire une relation client façon? Comment on fait pour que le laveur soit bien perçu, que ce soit pas juste un laveur?
Okay.
Comment je fais pour aller chercher d'autres marchés? Donc c'est ça, je viens avec ça, j'essaie de faire les choses, mais sur le terrain, c'est pas moi, c'est mes laveurs.
Ouais.
Tu vois, donc moi je mets un peu de bling bling dans la société, je rehausse un peu tout le monde, je revois les salaires parce que je m'insure, je dis mais comment ça se fait qu'ils sont payés que ça, mais
c'était combien
cette histoire, nanana, c'était des 40 000, 60 000, tu vois, je dis mais non, c'est
ça
pas possible,
000,
tu vois,
ça fait 60 euros,
ouais. Tu vois, je me dis mais attendez, c'est pas possible, c'est machin. Après tu te rends compte en fait que en fait c'est les salaires de base en fait.
Ce qui est difficile parce que la vie coûte cher là-bas. J'ai vu que Dakar est l'une. Alors aujourd'hui, c'est une des villes d'Afrique francophone qui coûte le plus cher.
Dakar, c'est cher. Je pense que ça s'explique parce que on a de plus en plus d'entreprises étrangères qui arrivent, de gens de la diaspora qui arrivent.
Ouais, aussi.
Et puis, t'as une population qui s'embourgeoise aussi beaucoup plus, de plus en plus. Donc c'est ça qui fait augmenter le niveau de vie, en fait, tout simplement.
D'accord. Et c'est qui tes clients
sur cette
boîte-là?
Entreprise, particulier beaucoup.
Et n'importe quel type de boîte, n'importe quel type de particulier.
Ouais. Si, n'importe quel type de boîte, n'importe quel type de particulier aussi. Mm-hmm. Donc on faisait, pour les particuliers, c'était quoi? Nettoyage tapis, canapé, voiture, beaucoup. Maison, fin de chantier pour des particuliers, pour des entreprises, c'est nettoyage de bureaux, fin de chantier aussi, parce qu'on arrive aussi dans une période où au Sénégal il y a beaucoup de construction, donc forcément il y a besoin de fin de chantier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nettoyage de parties communes, par exemple des bureaux qui peuvent être inondés parce qu'il y a une saison des pluies, donc il faut nettoyer les moquettes, voilà, c'est des trucs comme ça.
Et ça va en termes de gestion et de conduction d'entreprise? Est-ce que tu es parvenu à atteindre tes objectifs de développement?
Si, si, j'ai pu atteindre mes objectifs de développement parce que c'est vrai qu'au départ, on avait beaucoup de clients particuliers. Et moi, mon ambition, c'était vraiment d'aller sur du B2B. Et c'est ce que j'ai pu développer. Et en fait, c'est le truc de base, c'est que tu prends ta voiture et tu vas voir les gens, en fait. Et ça, c'est, je sors de ma zone de confort quand je fais ça. Parce que quand tu es dans le cadre du travail, c'est un cadre, c'est cadré, en fait. Tu vois, donc, t'as des rendez-vous pro, machin, truc, ok? Mais quand tu rentres dans une entreprise et que tu dois aller chercher du B2B, que tu connais personne, bah, tu tapes à tout le monde, tu appelles tout le monde, tu y vas, on te met en relation, et c'est là où tu te dis, ton réseau, il est important.
C'est ça que j'allais te demander, ton réseau est important. Dès l'époque, il t'a aidé, déjà, ou plutôt c'est le réseau de ton entourage familial?
C'est plutôt d'abord le réseau de l'entourage. Après, tu vas forcément vers des clients avec qui des chefs de projet avec qui voilà t'as bien dealé et tu leur poses la question tout simplement, tu connais pas tel. Et puis moi dans ma famille j'ai beaucoup d'architectes, j'ai beaucoup de gens qui sont dans le bâtiment aussi, donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis des fois c'est des concours de circonstances, c'est tu vas dans une école, tu vois qu'il y a la directrice et tu la chopes et tu dis voilà madame, vous seriez pas intéressée, vous laissez votre école fermée pendant 3 mois. Je vous propose un nettoyage global. Donc c'est un concours de circonstances, de rencontres, mais tu sors forcément de ta zone de confort. Je pense que c'est une des clés aussi de réussite quand on entreprend en Afrique.
Quoi, à la base, toi, t'es un peu timide plutôt
ou... Je suis très timide.
Ah ouais?
Ouais, ça se voit pas comme ça.
Non, ça se voit pas.
J'ai beaucoup travaillé, mais je suis très introvertie.
Ouais.
Et je suis quelqu'un de très engagé aussi. Et je pars du principe que quand on s'engage dans notre mission de vie, la timidité, on la met de côté, on n'en a rien à foutre et on y va quand même. Parce que c'est ta mission et que tu ne vas pas te cacher derrière ça, quoi, en fait.
Mais c'est facile à dire, ça.
Ah, oui, mais...
C'est parce que, bon... Tu sais, des fois, tu as envie, mais tu sens des... Tu sais, des fois, on me demande de faire des choses, j'ai presque des poussées de boutons qui me...
Non, t'inquiète, nous aussi, je suis voilà. Pareil que toi.
Donc, comment est-ce que tu fais là? C'est parce que t'avais pas le choix, en fait, peut-être, non?
T'as pas le choix et tu te poses la question, si tu fais pas... C'est qu'est-ce qui se passe?
Ouais, c'est ça aussi.
En fait, des fois, il faut recentrer, tu vois. Si tu fais pas, en fait, la vision que tu as de ton entreprise, elle va où? On fait comment, en fait?
Ouais,
donc, tu te dis, bon, ma chérie, il faut y aller.
Ouais. C'était quoi comme entreprise? Faisait combien de chiffre d'affaires? Combien de salariés? C'était quoi? T'as vu, moi, je parle toujours du chiffre d'affaires. Ça te gêne? J'ai vu que ses yeux, ils ont...
Ouais, grave. Salariés, on était à... Oh, je sais pas, on avait 5-6 salariés.
Ok.
Chiffre d'affaires. Est-ce que je pourrais te dire chiffre d'affaires? Ça fait longtemps, tout ça, là. Je sais pas.
Tu te souviens plus?
On était, en tout cas, on était à peu près à 1 million par mois.
De CFA?
De CFA. Ça, je peux te dire.
D'accord.
Après, voilà.
D'accord.
T'as un million, ça dépendait. 1 million, 1 500 000, ça dépendait des chantiers qu'on avait, si on n'en avait pas. Mais minimum, on était à 1 million.
D'accord. Oui, ça fait entre 18 et 20 millions par an, quoi. D'accord.
C'est ça.
Tu quittes?
Je quitte, ouais.
Pourquoi tu quittes l'Afrique? Ah, je quitte Wakanda. L'Afrique.
Non, Wakanda. Parce que je quitte l'Afrique parce que bon... J'arrive à une étape de ma vie où je divorce, où j'ai besoin de revenir auprès de papa et maman.
Ah.
J'ai perdu mes repères, mes parents sont en France. Je dis bon, je vais rentrer.
D'accord.
À contre-cœur, parce que voilà, je vivais ma best life, parce que j'arrivais à développer mes trucs, parce que j'avais commencé, ça faisait 10 ans que j'étais sur place quand même.
Ouais.
Sauf que je décide de redonner peut-être un nouveau souffle aussi, pour moi-même et pour mes enfants, donc je reviens.
Et quand tu reviens, moi, je me souviens, tu reviens dans le tourisme d'affaires. Parce que moi, quand tu t'es présenté à moi, je me souviens, quand tu étais au téléphone, tu faisais du tourisme d'affaires.
Je faisais du tourisme d'affaires quand j'étais.
Mais quand t'es revenu ici, tu faisais pas du tourisme encore? Ok, je sais pas pourquoi j'ai gardé ce truc-là.
Mais justement, c'est pour ça qu'Autour de Marie est arrivé. C'est-à-dire que j'arrive ici en janvier. Janvier, il fait super froid. J'arrive chez les parents. appartement de quoi ? Mes parents, ils font quoi ? Appartement quoi ? De 50 mètres, 60 mètres carrés ?
Mmh.
T'as l'habitude d'être dans des villas, hein, tu vois. Donc déjà, moi, j'étais choquée, tu vois. Mmh. Et tu te dis, bon, hey, là, il faut absolument que tu ailles travailler.
Mmh.
Et t'as deux enfants avec toi. Donc
faut
que tu charbonnes, tu vois. Sauf que moi, j'ai jamais travaillé en France. Je pars à 21 ans, moi.
Quand t'es partie, là, tu venais,
j'avais
en fait,
jamais
de finir
travaillé,
tes diplômes.
En fait, ok, tu vois.
D'accord.
Donc, t'arrives, tu sais, tu reprends le truc, quoi, la sécu, les trucs chelous, là. Moi, je connaissais plus ça, moi. Je connaissais pas ça, tu vois. Et donc, j'appelle mon coach, parce que je fais du basket.
Ah.
Et j'appelle mon coach, Laurent, je lui dis, ah, moi, je suis là, j'ai besoin de travailler.
Mmh.
Il me dit, ah, j'ai une mission pour toi, va au château de Versailles.
Ok.
Ceux qui surveillent les salles.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Donc, c'est ce que j'ai fait pendant 6 mois.
D'accord.
6 mois, le temps de mettre de l'argent de côté. T'es chez les parents, donc tu peux mettre de côté.
Mmh.
Et puis, le réseau fait que j'ai une cousine qui a un appartement à Agnières. Son locataire quitte. Donc, moi, je reprends l'appartement. C'est ma cousine, donc on va pas...
Voilà. Ouais, t'as pas les problèmes.
Y a pas les problèmes
connaît.
Là qu'on connaît. Voilà. Ouais,
les fiches de paye,
c'est
les trucs.
C'est ça, c'est ça. Donc, j'arrive là. Et là, je me dis, bon, Château de Versailles, c'est bien mignon, mais merci.
Mmh.
Et je me dis, bon... Parce que entre temps, bien évidemment, je postule pour être travailler dans mon domaine et on arrive dans une période où il n'y a pas les budgets pour faire du tourisme d'affaires, pour faire des événementiels. Donc je trouve pas.
C'était en quelle année?
C'était en 2015.
Ok.
2015. Mmh. Et donc, je me dis bon, je vais me former. Donc je rêve de travailler à l'aéroport. Ça c'était. Mettre les uniformes, façon. Donc, je me forme et je travaille au sein d'Air France pendant quelques temps. Bon, après, j'étais obligée de trouver un travail stable parce que c'était de l'intérim.
Mmh.
Donc, je quitte Air France. Je travaille chez AXA Assurance, donc un truc qui n'a rien à voir. Donc, on est toujours dans de l'alimentaire. Hein.
Tu vends des assurances ?
Je vends des assurances, assurance vie.
Toi
bon,
aussi.
Donc, je fais ça. Après, je quitte ça. Et je trouve un CDI chez BMW.
Ok.
Toujours dans les assurances.
Ah.
Et je reste là-bas, pendant 6 ans. Je reste là pendant 6 ans, mais en fait, je suis l'ombre de moi-même.
Mm-hmm.
Tu vois, je me dis, mais Marie, tu as voulu rentrer dans le bain, là, mais c'est pas toi, ça.
Mm.
Et donc, je me dis, bon, et l'Afrique t'appelle. L'Afrique t'appelle, parce que moi, j'étais fâchée avec l'Afrique pendant quelques années.
Ouais.
Et l'Afrique t'appelle et tu te dis, bon, il serait temps quand même que tu trouves une activité où il y a le lien, tu vois.
Okay.
Et je vois autour de moi, tout le monde me parle d'Afrique, mais personne n'entreprend. Tout le monde dit, je veux faire, personne ne fait.
Mmh.
Et moi, automatiquement, à chaque fois que... Enfin, au moment, quand je vivais au Sénégal, à chaque fois, on me demandait, tu connais pas tel. Donc moi, naturellement, avec mon réseau, donc je donnais mes contacts. Et chemin se faisant, je me dis, bon, bah, écoute, je vais créer un incubateur pour aider les gens de la diaspora à rentrer. Mmh. Ça me permet de me réconcilier avec le Sénégal. Ça me permet de faire des allers-retours. Et puis, ça m'épanouit. Et puis, je sers à quelque chose, quoi, en fait.
Mais pourquoi un incubateur? Parce que pour moi, c'est les startups qui viennent et qui prennent, pas de l'énergie, mais en tout cas, qui prennent toutes les ressources pour ensuite développer leur boîte.
En fait, t'as plusieurs types d'incubateurs.
Ouais. Ben ouais, c'est pour ça que j'aimerais.
T'as plusieurs types d'incubateurs. Moi, j'ai choisi d'accompagner des porteurs de projets parce que on donne pas assez la chance aux porteurs de projets.
Mm-hmm.
Tu vois. On va toujours aller chercher celui qui a déjà deux ans, qui a déjà un chiffre d'affaires pour l'accompagner. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces pépites dormantes là qui sont là et qui n'arrivent pas à se lancer ou alors quand ils y vont, ils se cassent la gueule littéralement, tu vois. Donc je fais le pari de ça et je me dis je vais travailler avec des incubateurs demain, des accélérateurs on appelle, où je vais pouvoir les mettre dans ces accélérateurs et leur permettre de partir. Mais moi c'était important pour moi parce que je suis quelqu'un qui démarre aussi dans la vie. Mon entreprise elle démarre aussi. Je sais c'est quelle galère de monter une structure. Je sais quand t'as pas de réseau c'est compliqué. Donc je me dis je vais créer un incubateur pour des porteurs de projets.
Et en général, les incubateurs, ils lèvent des fonds eux-mêmes pour assumer. Et toi, non ?
Alors nous,
je veux dire même pour toi, hein, pour ta propre structure.
Non, justement, on est en train de mettre en place une plateforme où on va en fait pouvoir matcher des investisseurs et des porteurs de projets.
Oui, moi je parle même pour toi. Moi. C'est-à-dire que
ah oui, moi.
Les incubateurs, mm-hmm. en général, mm-hmm. c'est des associations d'ailleurs, alors que toi, tu as choisi d'être un business.
Ouais.
Et elles sont elles-mêmes financées pour apporter l'écosystème à la boîte, mm-hmm. tu vois.
Mm-hmm.
Alors que toi, tu n'as pas choisi ce...
Non.
Pourquoi ? Tu n'es pas avec Meet Africa, AFD, qui t'injectent des fonds pour que tu accompagnes les boîtes.
Parce qu'en fait, Meet Africa et AFD, ils sont très liés à la France.
Ouais, forcément, bien
moi,
sûr.
Ça ne m'intéresse pas.
On a une militante non. à table, je ne savais
non,
pas.
Non, ça ne m'intéresse pas, en
non,
fait.
Non, dis-moi.
Et je me dis que j'ai des pépites autour de moi. J'ai des experts qui sont là.
Mm-hmm.
Pour moi, la force du groupe, elle est très importante. Parce que j'ai été élevée comme ça, parce mm-hmm. que je suis une ancienne basketteuse, parce que moi, la team, c'est important pour moi.
Mm.
Et je me dis, on n'a pas besoin d'attendre les fonds de la France pour aller. Et en plus de ça... Les Meet Africa et tout ça, sans leur jeter la pierre, ce qu'ils font, c'est exceptionnel.
Mmh.
Sauf qu'en fait, c'est des idées de projet qui tombent dans l'État français. Donc, ça veut dire, nous, on sait nos projets, ils vont où ? On sait, en okay. fait, tu vois ce que je veux dire ?
C'est en fait, une manière aussi... des projets qui vont dans l'intérêt de la France, c'est ça ?
C'est ça. C'est une manière aussi, eux, de savoir où est-ce que les Africains et la diaspora vont mettre leur argent, ou vont mettre leur énergie.
Si j'étais une crapule, tu sais ce que je ferais, cet extrait-là. Je le mettrais sur Instagram.
Non, mais c'est vrai. Mais c'est une vérité.
Mais je suis pas une crapule,
C'est une vérité,
pas.
C'est une
Parce
vérité.
Sinon, il y aurait un clash entre toi et Meet Africa.
Meet Africa.
Mmh.
Non, je sais pas. Franchement, Meet Africa, vous faites du bon taf.
Oui, c'est ça le pire.
Non, vous faites du bon taf. Bon non, franchement, vous faites du bon
mais
taf.
Mais il y a un lien politique, c'est ça que
et je pense qu'ils sont un peu, moi, j'aime bien être libre.
Ouais.
Tu vois
mmh.
Parce que quand tu vas, je pense, quand tu vas dans des structures comme ça, t'as un cahier des charges, tu dois respecter des trucs.
Non. En fait, il faut que tu fasses valider tout ce que tu fais. Alors que toi, c'est un projet qui sort de ta tête. Mais en fait, ta situation, elle est très emblématique de la communauté, de l'entrepreneur dans la communauté. Mmh. Souvent, les gens me demandent pourquoi est-ce que nos projets à nous sont plus chers que les autres. Nos business, quand on fait un gala, on fait un truc, c'est toujours plus cher.
Mmh.
Et je leur dis, c'est
plus
parce que nous...
Par rapport à quoi ?
Ben, je te dis, ben, regarde, toi, t'es un incubateur.
Ouais.
La plupart des incubateurs, ils sont gratuits. Je donne un exemple.
Oui,
toi, t'es pas gratuite.
Non, je suis pas gratuite.
Tu vois ce que je veux dire ?
Je suis pas gratuite.
Et pourquoi c'est pas gratuit ?
Mais il y a plein d'incubateurs qui sont pas gratuits aussi. Hein.
Ah ouais ?
Attention, hein. T'as des incubateurs qui sont pas gratuits.
D'accord.
Parce que moi, je pars du principe, quand on met de la gratuité quelque part, je trouve que tu mets moins d'efforts. On le regarde quand t'as des gens qui débloquent du CPF, ils sont moins sérieux.
C'est vrai.
Toi, quand tu mets ton argent dans un incubateur, là, tu vas aller jusqu'au bout.
C'est vrai. Ça c'est
engage,
un aspect.
C'est vrai. Et moi, j'ai besoin d'avoir des gens engagés, quitte à ne pas en avoir beaucoup.
Mmh.
Ça sert à rien qu'on soit à 5 millions.
Mmh.
Quitte à en avoir pas beaucoup, mais avoir une poignée de gens engagés. Dès lors où tu mets ton argent chez Autour de Marie, c'est que vraiment tu es engagé.
Mmh.
Donc pour moi, en fait, il y a déjà une sélection... Mmh. Dès le départ. Moi, c'est clair.
Oui. Et alors, ça, pour moi, c'est le premier aspect, effectivement. Mais c'est aussi le prix de la liberté.
Aussi.
C'est surtout ça.
C'est ça.
Parce que, en fait, si tu fais un événement et que t'as des sponsors à gogo, bah forcément, ton événement, il va coûter moins cher. Mais malheureusement, j'ai l'impression, enfin, j'en suis conscient même, la cible noire n'intéresse pas trop les annonceurs.
Mmh.
J'ai l'impression qu'ils se disent, vas-y, nous, on communique, je sais pas, chez. Sur Facebook, et ça va toucher tout le monde. On n'a pas besoin d'aller sponsoriser Black Network, on n'a pas besoin d'aller sponsoriser Autour de Marie.
Mm-hmm.
Parce qu'en allant sur des cibles grosses, on va réussir à toucher une cible directe, tu vois.
Mm-hmm.
Ce qu'ils font pas quand tu vas chez les autres. Mais ça a pour conséquence que nous, comme on n'a pas accès à ces types de financements-là, ben nous, où est-ce qu'on va chercher le financement ? C'est sur le client lui-même. Et c'est ce qui fait que nos produits sont plus chers.
Je suis d'accord, mais après, c'est une vision.
Mmh. On n'a pas le choix, en vrai, même si c'est une vision... Enfin, après, ça, c'est la question de la liberté que t'évoques.
Tu vois, donc c'est ça. Après, nous, on doit s'efforcer aussi, nous, en tant qu'entrepreneurs, à donner du résultat aussi. Donc,
ouais.
C'est une manière aussi pour nous. On a une pression aussi. Mmh. Quand t'as quelqu'un qui rentre dans mon incubateur, j'ai cette pression du résultat.
Mmh. C'est quel résultat ? À quoi tu t'engages ? C'est quoi ton truc ? Tu dis, il faut que vous sortiez là avec ça. C'est avec quoi ?
Ce que je m'engage, c'est que vous sortez avec une feuille de route et un plan stratégique pour lancer votre business.
Mmh.
Et je vous mets à disposition mon réseau.
Et t'as un vrai réseau ?
J'ai un vrai réseau.
Ah ouais ? Qui ? Je sais que t'as Paps qu'on a reçu ici. Pardon.
Ouais,
en tout cas, à Dakar.
Paps.
Mais c'est qui ton
réseau ? J'ai plein d'autres entrepreneurs, mais moi, je suis pas. Il n'y a pas d'entrepreneur. comment te dire? Parce que là, aujourd'hui, si, comme je dis, si on ne sort pas dans les réseaux, on n'est personne.
Mmh.
Tu vois ce que je veux
ouais,
dire?
Ouais, ouais, totalement.
Donc, moi, ce que je vends, c'est de l'expertise. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut, je ne sais pas, qui veut se lancer dans le froid. Justement, on a le cas là, qui veut se lancer dans le froid. Et bien là, on va le mettre en relation directement avec des entreprises qui sont dans le froid, des Auchan, des gens qui sont au port, des industriels. Enfin, tu vois, et ce n'est pas des gens qu'on voit sur les réseaux, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que moi, les projets que je choisis, c'est parce que je sais que je peux les accompagner et que je peux les linker. Sinon, je ne t'accompagne pas. Moi, je suis très honnête. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'incubés par session. Parce que quand tu arrives au Sénégal, parce que là, pour le moment, on n'est qu'au Sénégal, mais quand tu arrives au Sénégal, tous tes rendez-vous pros sont pris. Tu vois, et c'est difficile de le faire avec des cohortes de 50, de 60. Et c'est là aussi où je vois des Meet Africa et d'autres. Peut-être qu'ils ont les gens, enfin, comment dire, le personnel. Mais il faut trouver aussi. Enfin, nous, on t'accompagne vraiment. On devient limite ton bras droit, quoi. Tu vois, et c'est beaucoup d'énergie.
Ouais.
C'est énormément d'énergie d'accompagner. On part de quelqu'un qui part de zéro à l'accompagner à lancer.
Quand ils arrivent, ils sont à zéro, zéro. Juste,
ils ont juste une idée.
Et donc, toi, d'abord, tu es dans la phase d'idéation, tu les challenges. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi que tu leur apportes?
Bah, déjà, au début, moi, je travaille sur eux.
D'accord. C'est ce que important. Tu disais tout à l'heure, ouais. C'est-à-dire.
Mais il y a plein de blocages, en fait.
Ouais, voilà, c'est ça.
Il y a plein de blocages qui sont liés à plein de choses. On les accompagne. Déjà, je fais en sorte que l'idée qu'ils ont soit en adéquation avec leur personne. Donc, il y a du profilage, il y a des tests de vocation, etc. etc. qu'on fait. Et puis après, on regarde un petit peu son mode de fonctionnement. C'est quoi ses forces, ses faiblesses, comment est-ce qu'il réagit? Parce qu'en fait, quand tu vas dans un autre pays, surtout un pays d'Afrique, si tu te maîtrises pas en tant que personne, c'est compliqué en fait.
C'est-à-dire.
C'est compliqué.
Se maîtriser.
Si tu connais pas tes forces et tes faiblesses,
ouais.
Tu vois, c'est compliqué de t'adapter à l'environnement.
Ouais.
Tu vois. Donc moi, c'est important pour moi de regarder ça. Donc ça, on le fait sur une première partie. Et ensuite, il y a tout l'accompagnement business que l'on fait selon ce que tu prends. Sinon, il y a l'accompagnement aussi au concours de pitch parce que les gens pitchent. C'est légal. Donc voilà, toutes les compétences, en tout cas techniques, soft skills, tout ce qu'il faut pour que tu puisses te lancer. Si tu dois te lancer et que tu dois créer un événement, on t'aide à créer ton événement avec ton rétro-planning, avec ton pricing, ta méthode de distribution, ton étude de marché, ton profilage, on parle à qui, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour se lancer.
Quand tu dis ton business, c'est quoi exactement? Quels sont les... Quand tu dis que tu aides sur la partie business, comment est-ce que tu aides la personne à bien structurer son business? Et quels sont les points à prendre en compte pour un projet qui va en Afrique, à différence d'un projet qui est en France?
C'est le terrain. C'est les réalités du terrain. C'est l'étude de marché. En fait, nous, notre accompagnement débute par l'étude de marché. Pourquoi? Parce que c'est le marché qui dicte. On a beau venir avec notre idée là, mais s'il y a pas la demande sur le marché, on part sur autre chose. Tu vois, donc ça commence par c'est 13 modules de formation.
13, donc, c'est beaucoup. Ouais, 13. En combien de temps?
En 3 mois.
Ok.
En 3 mois, donc il y a l'étude de marché, il y a le ciblage, on parle à qui, persona, etc. Ta méthode de distribution, comment tu distribues, il y a toute la partie marketing. Parce qu'en fait, on ne market pas de la même manière quand on est en Chine que quand on est au Sénégal, d'accord, ou en Afrique, peu importe. Il y a toute cette partie-là, toute cette partie branding aussi qui est très importante. On a toute la partie aussi coût. Aujourd'hui, tu veux te lancer, tu veux créer par exemple, je ne sais pas, un restaurant, parce que ça, on a déjà eu le cas, avec comment tu te lances en fait. C'est-à-dire, est-ce que tu choisis un local? Est-ce que tu le fais de chez toi? Est-ce que finalement tu commences par être traiteur d'abord? Donc il y a toutes ces choses-là. Tu vois. Et ça, c'est des éléments du terrain qu'il faut que tu aies pour pouvoir construire ton business plan à la fin et repartir avec ta feuille de route. Donc il y a toutes ces étapes-là classiques qu'on retrouve dans n'importe quel incubateur.
Oui, c'est ça.
Mais qui sont très portées sur le terrain.
D'accord.
Tu vois.
Et le terrain, parce que aussi, est-ce qu'on peut dire que c'est parce que l'Afrique est faiblement digitalisée? Et donc, tu as moins accès à des data, ouais, moins exactement. Accès à des rapports.
Ouais, 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 effectivement. Mmh. C'est vrai qu'en études de marché, parfois, on a un peu de mal. Mmh. Donc, il nous arrive des fois où on va regarder dans des pays voisins. Mmh. Par exemple, si c'est un business au Mali et qu'on n'a pas forcément ce qu'il faut, mmh. on va regarder ce qui se passe peut-être au Sénégal ou ce qui se passe peut-être en Côte d'Ivoire. Mmh. On va un peu regarder, parce que finalement, c'est les mêmes populations à peu près. Hein. Mmh. La manière de consommer est à peu près la même. Et c'est ce qu'on regarde, en fait. Mmh. On regarde, par exemple, quelqu'un qui veut être traiteur, on va regarder le marché de la restauration.
Ouais, forcément. Mmh.
Donc voilà, c'est
et en études de marché, vous allez sur le terrain, vous faites des enquêtes terrain, quand tu dis, vous demandez aux gens dans la rue
carrément.
Et tout. Ah ouais?
Ouais, ouais, on fait d'accord. des enquêtes terrain. Et puis moi, je suis aussi là pour faciliter, parce que tu as des gens, par exemple, qui doivent faire un questionnaire, mais qui n'ont pas de famille au Sénégal, ou qui n'ont pas de famille en Côte d'Ivoire, ou qui n'ont rien, tu vois.
C'est vrai.
Donc c'est moi, vrai. C'est là où j'arrive et je leur dis, bon voilà, appelle telle personne, passe par ça, mm-hmm. passe par ce réseau-là, machin, et on récolte comme ça les réponses.
Mmh. Et bah ouais, parce que certains pourraient.
Ou des fois, on passe des coups de fil. Ça nous est arrivé pendant des calls. On ne savait pas trop et on passe des coups de fil
direct
en fait. Comme et on sur pose la question, tu vois.
Comme
là, c'était la dernière fois, c'est la problématique des dames de ménage.
Ok.
D'accord. On voulait savoir en fait comment est-ce qu'on fait pour garder une dame de ménage. Parce qu'on sait qu'il y a un turnover.
Mmh.
Et on se disait, est-ce qu'il ne faudrait pas les récompenser du fait qu'elles soient, par exemple, assidues,
mmh.
tu vois
ouais.
Et donc, nous, c'est notre idéal français, tu vois. Mmh. Moi, j'ai appelé, et j'ai dit, bon, voilà, nous, on souhaite faire ça, qu'est-ce que t'en penses
ouais.
Elle nous a dit, ouais, franchement, c'est une bonne idée. Moi, si j'avais une dame de ménage et que j'avais ce service-là, je l'aurais pris.
D'accord.
Tu vois. Donc, on essaie vraiment d'être le plus proche possible de la réalité.
Parce que, en fait, toi, ce que tu apportes aux gens, c'est cette connaissance du terrain parce que tu as vécu là-bas et ou parce que tu as un réseau étendu de personnes qui vivent dans d'autres capitales aussi francophones.
C'est ça. Et c'est surtout que j'ai vécu là-bas. Donc, il y a des choses... Moi, des fois, il y a des porteurs de projets qui disent des choses. Je leur dis, mais c'est pas possible, en fait, ce que tu veux faire.
Ah ouais?
Non.
Parce qu'en tout, tu es resté combien de temps? 2007, 2015, c'est ça? Ouais. Ça fait 8 ans.
8 ans, ouais.
Ouais. Parce que certains pourraient se demander, oui, mais Marie, c'est quoi son expertise à elle? Mmh. Tu vois ce que je veux dire?
Mmh.
Parce que vivre dans un pays, c'est vrai, ça te permet d'avoir une connaissance ouais. du marché. Mmh. Mais incuber quelqu'un, tu vois ce que je veux dire?
Alors, je suis pas seule, hein. Okay. Encore une fois.
Dis-moi.
J'ai une équipe derrière moi.
Mmh.
J'ai des business coach.
Ok.
J'ai des personnes qui t'accompagnent à tout ce qui est levée de fonds.
Mmh.
J'ai des mentors sur place aussi, sur différents secteurs. On essaie vraiment d'avoir des mentors sur chacun de nos secteurs.
C'est quoi les grands secteurs ?
Par exemple, la distribution.
Okay.
On va vraiment avoir un mentor sur la distribution.
Mmh.
Le transport, on va avoir un mentor sur le transport, etc. La restauration, on va avoir des mentors à chaque fois. C'est encore une fois pour avoir le regard local.
Ouais.
Donc moi, mon expertise, c'est qu'effectivement, je connais le terrain, mais j'arrive à réunir aussi tout un écosystème au service du projet de l'incube.
Mmh. Mais moi, je me pose une autre question, cette fois-ci, en tant qu'entrepreneur.
Ouais.
Si tu fais appel à beaucoup de prestataires, ou en tout cas beaucoup de ressources humaines, ça fait que tu manges ta marge. Comment est-ce que tu...
Je mange ma marge, mais je ne paye pas tout le monde.
Oh.
Non.
C'est-à-dire ?
Les mentors sur place...
Ah, non. Ok. Oui, oui.
C'est... En fait, tu sais, moi, j'ai tissé beaucoup de relations avec les gens.
Mmh.
Tu vois ? Donc, quand je les appelle pour leur dire, hey, les gars, j'ai besoin de vous sur ça, on vient, on ne me demande pas, tu me payes combien ?
Ah ouais ?
Non.
Et il délivre la qualité, une prestation de qualité quand même. Je dis ça parce que tu vois comment on est, l'humain est.
Non, non, non. Bah après, je choisis mes gens, encore une fois. Et c'est peut-être cette force-là que j'ai aussi.
Mmh.
C'est que mon réseau, il est, comme tu dis, il est quali.
Mmh.
Il est engagé. Et j'ai cette chance-là aussi, tu vois.
Mmh.
J'ai cette chance-là et je me suis dit, cette chance-là, je ne peux pas la garder que pour moi, en fait.
D'accord. D'accord.
Donc, par contre, mes formateurs sont
rémunérés. Mmh. Mais toi, alors... Toi, ta plus-value ou ton apport à toi, finalement, c'est quoi ? C'est être la chef de projet ?
Ouais, je suis vraiment le pont. Et j'organise un petit peu le lancement du projet de la personne.
Mmh.
C'est vraiment ça mon fort, en fait.
D'accord. Et
je suis facilitatrice, en fait.
C'est-à-dire ?
Je facilite les échanges entre un porteur de projet et un professionnel. Je facilite tout, en fait. Quand tu arrives, que tu veux En fait, quand tu arrives et que tu veux créer un business en Afrique, au Sénégal, parce que j'aime pas dire en Afrique, parce que c'est grand, on va parler du Sénégal, tu connais pas, en fait. Des fois, souvent, tu connais pas. Même si tu es venu en vacances, tu connais pas.
Bien sûr.
Donc moi, je suis vraiment là pour faciliter les choses, pour que ça soit plus fluide pour toi, en fait. En te mettant un réseau à ta disposition, en te mettant des business coach, tous les professionnels, en tout cas, qui t'aident à monter ton business.
Mais le voyage au Sénégal, pour moi, c'est la fin du truc.
C'est la fin, ouais.
C'est ça, hein.
À la fin, ouais.
Sur les 3 mois, il y a toute une partie aussi ici qui te permet de... D'ailleurs, le voyage arrive à la fin du voyage. Donc là, tu connais tous tes coachés pendant toute la période déjà ?
Ouais.
D'accord.
Tous.
Tous. Tu connais tous leurs projets. Et c'est quoi les projets les plus fréquents qu'on retrouve le plus ?
Mode et beauté.
OK.
Mode et beauté, beaucoup. Restauration. Beaucoup.
Transport, service. J'imagine.
Ouais. Non, pas encore transport. OK. J'ai pas encore accompagné des gens dans le transport. Non, j'ai pas encore accompagné des gens dans le transport. Service client, déjà, service à la personne, beaucoup. Service aux entreprises. Et beaucoup service à la personne.
D'accord. Et toi qui commences à voir un peu le marché, quels sont les secteurs dans lesquels tu te dis il y a des opportunités là où les frères de la communauté ils vont pas ?
L'agriculture.
Tu trouves que les gens vont pas dans l'agriculture ?
Parce qu'en fait, l'agriculture... c'est comme l'immobilier. En fait, quand tu rentres dans l'immobilier, t'as plusieurs tranches, t'as plusieurs façons de faire du business dans l'immobilier. Tu vois, l'agriculture, c'est pareil. L'agriculture, ça peut toucher la grande distribution, ça peut toucher la transformation, ça peut toucher comment te dire, tout ce qui est beauté, mode et beauté, ça peut toucher tellement de choses, c'est vaste.
C'est
vaste. Et je pense qu'on n'a pas assez d'entrepreneurs dans l'agro.
Ok. Parce que je me dis avec des... Bah justement, on parlait de Philippe Simo tout à l'heure. Au Sénégal, Jeff Zone, quand même.
Ouais, Jeff Zone, évidemment.
Qui fait un gros boulot. Ouais. Je me dis, ça aurait dû encourager les gens à se lancer. Qu'est-ce qui fait que les gens n'y vont pas, à ton avis ? En plus, j'ai l'impression qu'il y a une hype là-dessus. Moi, au bout d'un moment, j'en ai marre.
Oui, il y a une hype. Je pense qu'il y a une hype.
Ouais.
Pourquoi les gens n'y vont pas ? Franchement... Je sais pas. En fait, il suffit pas juste d'avoir un Jeff Zone. C'est vrai que Tianlong nous a rendu un peu sexy l'affaire.
T'as vu ?
C'est vrai.
Parce que tu le vois, il est frais, il voyage tout le temps. Tu
non,
dis,
c'est
ah,
vrai. C'est
vendre
vrai.
Des piments, non, non. Là, ça rapporte.
On n'a qu'à dire la vérité. Mais après, c'est quand même des métiers. Faut mouiller le maillot quand même.
Ouais.
Tu vois, est-ce que les gens sont prêts à ça ? Je sais pas. Ça demande des moyens aussi.
C'est ça, je pense.
Ça demande des moyens.
Est-ce que les projets dans lesquels, enfin les projets qui viennent vers toi, c'est des gens qui ne mettent pas beaucoup de capitaux, qui sont sur des projets qui sont pas très capitalistiques en termes de
ouais,
de,
beaucoup parce que c'est de lancement. c'est des business naissants.
Ok.
Et on part du principe que on accompagne avec ce que l'entrepreneur a.
D'accord.
Tu vois. Parce que tu peux avoir une vision très grande, mais il faut savoir commencer très petit.
Bien sûr.
Et nous, c'est cette philosophie-là qu'on a. Et effectivement, on a des porteurs de projets qui arrivent avec pas beaucoup de moyens, mais qui arrivent à faire des choses quand même.
Mais là, tu as accompagné quand même une soixantaine, la dernière fois, tu avais dit 65 ?
Ouais, on est à plus. On est à plus, là, on est presque à 90.
Ok. Donc, tu commences à avoir quand même maintenant une vision claire. Enfin, claire, plutôt, mais encore une... Tu commences à avoir un bon échantillon quand même, tu vois. C'est quoi le budget à peu près que les gens ont pour se lancer ?
Oh, on est sur du 10-15K.
D'accord.
En moyenne.
Ouais. Et tu trouves que c'est suffisant ?
Pas toujours.
C'est ça, on
ça
est
dépend.
D'accord. Hein.
Ça dépend.
Ça dépend de ton activité.
Quand c'est
en
du
fait.
Service, c'est possible.
Ouais. Et parce que le budget va servir à quoi ? Surtout dans des... Tu vois, si tu veux recruter, alors tu disais tout à l'heure 60-40 000, je me dis 40 000 à Dakar, si tu ne vis pas dans un bidonville, comment tu fais pour vivre, en fait ? Tu vois, t'es d'accord, non ?
Non, c'est clair.
C'est impossible. Parce que je sais qu'à Dakar, c'est plus cher qu'à Abidjan.
C'est impossible, mais la plupart des gens sont payés ça, hein, dans l'informel.
Ouais ?
Bah oui. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas pour le Sénégal, je pense que c'est beaucoup dans l'Afrique de l'Ouest, 90% c'est de l'informel. Ça, il faut le savoir.
Ouais.
Tu vois.
Mais donc, tu ça veut dire qu'il n'y a pas de. Il y a des mamans, elles envoient leurs enfants à l'école
mais
avec de l'informel. Ouais.
Tu vois, donc l'informel, il n'y a pas de cotisation sociale. Il y a plein de choses qu'il n'y a pas, en fait. C'est comme on dit là-bas, tu fais du lead gentil, quoi.
Lead gentil.
Ah, ouais.
J'ai jamais entendu ce mot.
Tu te débrouilles, tu trouves des marchés par-ci, par-là. Tu ne payes pas d'impôts, en fait.
Ouais. C'est sûr.
Tu ne payes pas de TVA. Tu ne payes pas de.
Mais avec 10 000. 15 000. Est-ce que t'es déjà armé pour pouvoir lancer un business pérenne, on va dire, rien que la cosmétique? Parce que les gens qui font de la cosmétique dont tu parles, là, en fait, ils vont sourcer des produits là-bas pour vendre ici, ou bien c'est des produits là-bas pour là-bas?
Non, c'est pour là-bas.
Ok, d'accord. Toi, tes projets, c'est surtout pour là-bas?
C'est pour là-bas.
Ok.
C'est uniquement là-bas.
C'est des gens qui veulent rentrer. Ils veulent pas juste faire du business. En fait. Ils veulent rentrer
s'installer. C'est des gens qui veulent rentrer. Donc, c'est des projets de vie qu'on accompagne, en fait.
Mmh.
Au-delà du projet business, c'est des gens qu'on accompagne à rentrer.
D'accord. Et la dernière fois, tu me disais, oui, qu'il y a des gens qui sont brouillés avec leur mari ou leur femme pour rentrer.
Ouais, on en a beaucoup.
Il y en a beaucoup, t'as dit.
Ah, on a eu beaucoup. On a eu. Ah, si. Si, parce qu'en fait, c'est que ça, comme j'ai dit, vous n'avez pas vu ça avant de vous marier. Avant de vous marier, il fallait dire que vous voulez aller en Afrique.
Mais peut-être que.
Tu ne peux
début,
pas attendre
là,
10 ans, de 10 ans, tu viens dire que tu pars.
Mais moi, au début, par exemple, moi, j'y pensais même pas, tu vois.
Comment tu as négocié ça?
Non, mais je veux dire que, après, c'est du leadership, tu vois. Mais au moment où je me suis marié, l'Afrique, c'était les vacances.
C'était loin.
Tu vois. C'était pas. J'y avais pas encore de projet concret. Surtout quand on se marie jeune ou quoi, tu vois, t'as pas encore de vision. C'est là, et puis il n'y a pas encore l'inflation, il n'y a pas encore la loi immigration.
Il n'y a pas encore les problèmes. C'est vrai qu'on a eu des cas. Et puis nous, il faut savoir que 90% des gens qu'on accompagne sont des femmes aussi.
C'est ce que j'allais te demander. Parce que t'as dit, à chaque fois, tu dis des problèmes avec les maris, tu dis pas des problèmes avec les femmes.
Non, on n'en a pas, parce que 90% des gens qu'on accompagne sont des femmes. Donc. C'est des femmes, des fois, qui partent et qui laissent leur mari derrière. Ça arrive.
C'est-à-dire que il y a ceux qui font les couples, toi, tu fais les divorces.
Non, moi, je ne fais pas les divorces. Pardon. Je ne fais pas les divorces.
Il y a tous nos mecs, là, toutes nos femmes, là, quand elles vont nous dire, je vais voir Marie, on va dire, reste ici, toi.
Parlez-en d'abord avec vos maris, d'abord. Et d'ailleurs, quand je fais mes entretiens, c'est la première chose que je pose. Question, attention. Est-ce que ton mari est d'accord? Est-ce qu'il est au courant? Parce que des fois, il y a des choses qui se trament là, dans ta tête. Le mari n'est pas au courant. C'est un problème, en fait.
Ça existe beaucoup.
C'est un problème.
Ouais. Ça, c'est un truc à gérer avant. Mais j'essaie d'identifier, en fait, avec 10, 15 000, dans quel business tu peux te lancer de manière pérenne. Est-ce que dans la restauration, ça va? Si tu veux lancer un resto avec 10, 15 000, t'arrives à Dakar?
Tu peux.
Ouais? Parce que ça va pas juste...
Tu vas avoir un petit. On t'a pas dit que tu vas faire un gros restaurant. Mm-hmm. Tu vas avoir un petit local.
D'accord.
Tu peux même, encore mieux, tu peux avoir ta villa.
Mm-hmm.
Et tu prends une partie.
Ouais.
Pour faire ton restaurant.
Mais avec 10, 15 000, tu sais, le loyer, t'auras bouffé, non?
Bah, sur Dakar, si tu vas avoir une villa où tu fais ton activité, il faut compter 1 million.
1 million?
800 000, vas-y. Entre 800 et 1 million.
Par
avoir
mois.
Après, ça dépend de ce que tu fais. Mm-hmm. Si par exemple, tu fais, je sais pas, de l'esthétique, il faut quand même que la villa où tu vas, elle soit bien jolie, bien, tu vois.
Mm-hmm.
Donc là, oui, tu montes dans des trucs de 800, 1000, 1 million facilement, tu vois. Mais 20 000 euros, tu peux.
D'accord.
Tu peux. Après, par exemple, pour un business, je sais que pour un business, quand on a accompagné des démos, elle avait 20 000 euros pour une boulangerie.
Ouais.
C'était pas assez.
D'accord.
C'était pas assez. Parce que rien que de faire venir tout son matériel, tu vois, la boulangerie, c'est un matériel quand même très particulier. Elle n'avait pas assez. Mais elle a fait venir son matos.
Et après?
Après la levée des fonds.
Ouais, c'est ça. Et là, t'accompagnes aussi sur la levée de fonds?
Ouais, on est en train de mettre en place, en fait.
C'est ça dont tu parlais,
une plateforme,
matching, là.
Exactement. On va matcher. Et là, c'est intéressant, il faut qu'on parle.
On va parler dans
c'est
tous
ça,
les cas.
C'est ça. Où on va matcher.
Surtout qu'on a un vrai
matcher.
Plug à Dakar, là.
C'est
j'ai
ça,
un plug, là.
T'as vu, non?
T'es c'est pas
ça.
Prête quand je vais te déclarer le plug.
C'est ça. Donc, en fait, le but de cette plateforme, c'est que nous, on amène des projets qui sont bien, bien, bien mûris et qui ont une stratégie, qui ont tout ce qu'il faut.
Ouais.
Où il manque juste de la trésor. Voilà. Et en face, on a un pool d'investisseurs qui sont prêts à...
Qui prêtent ou qui rentrent au capital?
C'est ce qu'on est en train de voir.
OK.
C'est ce qu'on est en train de voir. En tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on va présenter le 21 avril à Dakar.
D'accord. Ok, d'accord. D'accord. Donc, toi aujourd'hui, tu accompagnes des porteurs de projets, tu les accompagnes sur la structuration de leur projet du point de vue de l'idée, ensuite du business, après tu les mets en relation, tu fais ce qu'on appelle du soft landing, c'est-à-dire tu les mets en relation avec les partenaires fiables sur place.
Ouais.
Et si, dans un
des
temps...
Des clients parfois.
Des clients
on
même.
On a déjà eu des personnes qui ont eu leur premier client comme ça.
Mais c'est pas la promesse. En fait, moi, j'essaie d'identifier la promesse. Ouais.
La promesse, c'est de t'aider, en fait, c'est de t'accompagner à te lancer. On est vraiment là sur la partie lancement, la stratégie de lancement. Tu auras une stratégie de lancement claire et nette. Tu vas pouvoir pitcher devant des business angels et des investisseurs. C'est ça la promesse.
Et là, ça fait combien de temps que tu fais ça?
2021, 2 ans et demi.
D'accord. Donc, ça veut dire que maintenant, tu commences à avoir du recul avec des boîtes. Quelles sont tes plus belles fiertés? Des boîtes, tu t'as vu que toi, t'as pris l'idée de stade zéro et aujourd'hui, qui sont peut-être à 1, 1 et demi. Quelles sont tes boîtes, les boîtes dont t'es le plus fier?
Alors, on a celle dont je te parlais, Demo, qui, quand vous irez sur mes réseaux sociaux, on ira la voir, qui aujourd'hui a pu ouvrir sa boulangerie. Ça, c'est top. On a aussi...
C'est une boulangerie spécialité française c'est...
Non, pas forcément. Donc, elle fait vraiment avec les produits locaux.
D'accord.
Pour le coup, donc, elle met en avant vraiment la culture locale à travers son pain. Pour moi, c'était une championne ici en France parce qu'elle a été. Elle a grandi auprès des grands, là. Tous ceux qui sont dans la pâtisserie, là.
Ok.
Ceux qu'on voit là.
Dans les émissions, là, les dames regardent.
Exactement, exactement. Et c'est ce qu'elle a. Et c'est cette expérience, cette expertise-là qu'elle a lâchée et qu'elle amène au Sénégal. Donc, moi, quand j'ai entendu son projet, j'ai dit non, toi, là, c'est du lourd, viens. Après, toujours dans la restauration aussi, on a Mama Saveur Dima, qui elle aussi, ça y est, elle s'est lancée, elle a des clients B2B aussi, donc c'est intéressant. Elle travaille dans une école ici à Paris, et elle est rentrée pour ouvrir son business et qui s'appelle Saveur Dima. On a aussi Tennessee qui était sur notre première promo, qui travaille aussi à côté de Chunnyang justement.
Ok, à Jeff Zone.
Jeff Zone exactement et qui accompagne à tout ce qui est art oratoire, etc. Et elle a pu créer 3 business comme ça.
Ok. Donc
elle a sa marque de vêtements. Elle a ses coachings aussi. Et elle fait une troisième activité. Comment ça s'appelle? Il y a une troisième activité qu'elle fait. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, donc c'est des gens pareils. Fatou aussi, pareil. Elle accompagne les gens de la diaspora, un peu comme ce qu'on fait. Mais plutôt sur la partie installation et partie trouver le bon réseau ou accompagner en tout cas quelqu'un qui est en France et qui veut déjà commencer à lancer. Donc lui trouver, je ne sais pas, ça peut être le local, ça peut être des salariés, etc. Donc on a Malik Sall aussi. Malik Sall qui commence tout doucement à mettre en place sa structure.
Ouais.
On a les Mansa. On a plein de personnes qui commencent à émerger. Et c'est,
les Mansa, ils étaient incubés
chez pas incubés.
Ah d'accord, c'est des
partenaires. Pas incubés, mais c'était la plupart des Mansa.
Des membres.
Sortent d'autour de Marie.
Ah
beaucoup.
Ok.
Beaucoup.
Mais donc, il y a des hommes aussi. Parce que
il y a des hommes, exactement. Ouais, il y a des hommes. Il y a des femmes, parce qu'il y a une communauté de femmes qui est en train de se créer.
Dans les Mansa?
Ouais, les Mansa Mousseau.
Ok, ah, je savais pas. Je l'ai taquiné quand j'ai reçu sur le podcast, je lui ai dit, ah, c'est un truc d'homme. Il m'a dit, non, je dis, bah, c'est pas grave, vous assumez, tu vois.
C'est ça. Mais le cofondateur qui est Malik Sall, il a été incubé chez Autour de Marie.
D'accord.
Mohamed Sibi a été aussi coach chez nous. Donc,
d'accord.
Donc voilà.
Ok, super. Et c'est quoi les grands défis auxquels ces personnes-là font face quand elles arrivent? Une fois que toi, tu les as lâchées dans la nature, là. C'est quoi leur grand défi quand ils te rappellent? Ils disent.
Non, c'est l'adaptation.
Marie, tu m'es pas préparée à ça.
Non, c'est l'adaptation. C'est l'adaptation. C'est plus compliqué.
Ouais.
C'est s'adapter au code du pays, s'adapter aux façons de faire du pays. C'est vraiment ça, pour moi, les challenges des gens qui rentrent et même qui se font accompagner.
Ouais.
C'est toujours la même chose, en fait.
Pour aller au Sénégal, est-ce qu'il faut être Sénégalais?
Non.
T'es sûr?
Il y en a plein qui disent ça.
Ouais, c'est une grande discussion.
Mais tout le monde me dit ça.
On dit déjà, si tu parles pas Wolof, t'es mort.
Mais non. Non, ça dépend.
Dans tes coachés, il y a combien qui ne sont pas sénégalais?
Mais on en a plein en plus. Ouais. Tu vois, là, par exemple, dans la promo, la dernière promo, on a des Rwandais.
Ouais.
On a un Congolais.
OK.
On a un Togolais.
OK. Mais eux, ils ne sont pas encore installés. Il faut attendre après. Je parle de ceux qui ont réussi leur installation.
Si. Le Togolais, il était déjà venu au Sénégal. Il avait vécu longtemps même au Sénégal.
OK.
Il est revenu. Mais non, pour moi. Ben non. Faut pas être
si tout le monde le dit, c'est qu'il y a une réalité.
Ah, peut-être parce que moi, je suis sénégalais. Je
sais pas. Oui, tu t'en rends pas compte. Peut-être. Non, parce que en gros, il y a deux sujets. De toute façon, les grandes capitales aujourd'hui en Afrique francophone, c'est Abidjan, Dakar et peut-être Cotonou. Mais c'est peut-être que Cotonou, c'est la troisième. Donc, ça se bat beaucoup entre Dakar et Abidjan.
Ouais.
Abidjan présente un avantage qui est que peu importe ta race, peu importe ta couleur, là-bas, on t'accepte. Tu vois?
Et
franchement, Abidjan, c'est une dinguerie.
Et donc, Sénégal, il y a
pas. Attends, j'y viens. J'y viens.
OK.
Mais je t'interroge, c'est pas, je sais pas.
Mais je t'écoute.
Mais ce que tous les gens disent, c'est que quand ils ont fait les deux pays, ils disent le problème au Sénégal, c'est que déjà, il y a un fort poids culturel, quand même, tu vois. Mais quand je parle culturel, je parle même religieux, qui est très présent. Et c'est quelque chose que nous, on valorise, c'est-à-dire la tradition sénégalaise, le fait de maintenir sa langue. Franchement, tout le monde me dit, ça, c'est un truc qu'on dit tout le temps. Si t'arrives à Dakar et que toi, tu parles pas, tes salariés, ils vont te tuer. Parce que eux, entre eux, ils vont parler que Wolof. Et qu'il y a des gens même au Sénégal qui parlent pas français. Alors qu'à Abidjan, c'est pas possible. Même s'ils parlent un ouchi, t'as du mal toujours à comprendre. Ils vont parler français, tu vois. Alors que le Sénégal est un pays qui est très fier. Et alors, c'est à contrebalancer parce que il y a la teranga dont on parle. Tu vois, la teranga, c'est l'hospitalité. Mais pour autant, il y a cette difficulté-là, ce qui fait que les gens qui sont pas sénégalais, ils ont plus de facilité à aller en Côte d'Ivoire qu'à aller au Sénégal. Ah, tu vois, la sénégalaise fière, là, elle veut pas...
Non, je sais pas. Et puis, ça dépend des domaines dans lesquels tu entreprends encore une fois.
C'est-à-dire
Par exemple, je sais pas, moi, dans le nettoyage, les gens qui se bossaient avec moi ne parlaient pas forcément tous français.
OK. Mais toi, parles Wolof.
Moi, je parle Wolof.
T'as pas de problème.
Non. Mais si tu vas dans un restaurant, les serveurs vont parler français.
Ouais.
Si tu vas, je sais pas moi, si tu crées, des boutiques dans les quartiers, les gens vont parler français. Ça dépend de la nature de ton business en fait.
Je te crois. Hein. Franchement, je...
Donc, moi, je sais pas. Hein. En tout cas, nous, on a beaucoup d'étrangers chez nous.
C'est vrai?
Dans nos cohortes, là, on a quand même des étrangers.
Ouais. Et qui s'installent, finalement.
Et qui s'installent.
Ils ont pas fui, après.
On a même une Antillaise, là, pour te dire. Et quand je fais mes networks au Sénégal, mais il y a toutes les nationalités.
Ouais. Quand tu fais des événements là-bas?
Bah ouais. C'est pour ça que je sais pas de quoi on parle.
Non, mais moi, je suis... je te dis ça de l'extérieur.
Oui, de l'extérieur.
Mais c'est le retour qu'on a. Que si t'es pas musulman, si t'es pas sénégalais...
C'est pas vrai, ça.
C'est ce que les gens disent.
Non, c'est pas vrai.
Non.
Désolée.
Non,
moi, j'ai un côté chrétien, donc j'ai les deux côtés.
C'est vrai.
Donc, je parle vraiment de choses que je connais. J'ai les deux côtés. Non.
Mais les Capverdiens, c'est des Sénégalais aussi. Enfin, il n'y a pas de problème. T'es Capverdienne, hein?
Oui, je suis Capverdienne.
Ouais, voilà. Il n'y a pas de problème.
Oui, mais même, ça reste des Capverdiens quand même. Oui, on a des trucs quand même très Capverdiens. Enfin, tu vois. Il y a comme une culture chrétienne,
C'est vrai. Et même les Mandjak, qui bien souvent sont chrétiens.
Non, franchement, moi, le débat de ça, là, moi, je ne vois pas.
Tu ne vois pas?
Non, il faudra me dire les gens, là, parce que moi, je ne sais pas de quoi vous parlez.
Non, mais bon, ça veut dire que tu ne parles pas souvent à des non-sénégalais, alors. Parce que si tu viens dans le game, mais surtout dans le game du back to Africa, voilà, peut-être c'est des clichés un peu, tu vois. Mais en tout cas, voilà, si contre les trois, là... Les chrétiens, ils vont pas beaucoup au Bénin parce qu'il y a le vaudou, ils ont peur, tu vois. Donc ils vont plus en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, tu vois, c'est les milieux évangéliques sont très développés. Les musulmans, tu vois, ils vont pas trop en Côte d'Ivoire parce que Côte d'Ivoire, c'est aussi un peu bordel, tu vois.
Ils vont peut-être en haut, quoi.
Voilà, ou bien ils vont au nord. Mais tu vois, si tu vas à Abidjan, Abidjan, c'est quand même beaucoup la fête, beaucoup débridé.
Non, toi, il faut que tu viennes au Sénégal. Parce qu'en fait, il y a que comme ça que tu vas voir que t'es pas obligé.
C'est pas aussi simple que
non,
ça.
Non, c'est pas. Tu peux être non sénégalais et évoluer.
Non, mais je te crois.
Non, il faut que tu viennes.
Faut voir.
Que tu viennes.
Mais dans l'absolu, en tout cas, toi, tu dis qu'il n'y a pas de de freins culturels et qu'il y a une intégration des étrangers qui est aussi bonne que dans les autres pays. Et dans la cohorte là, de ceux dont tu as parlé, là, il y a beaucoup de non-sénégalais ceux qui sont installés là, depuis un an et demi.
Il n'y a pas beaucoup de non-sénégalais, il y en a de plus en plus.
Ok, non, j'ai rien dit.
Il y en a de plus en plus, parce que là, dans la cohorte, là, celle-là, on a quand même quatre étrangers.
Ok. Okay.
C'est la moitié de l'effectif.
D'accord. Non, c'est bien.
50% de l'effectif.
C'est important. En tout cas, c'est important que tout le monde ait l'information concrète, tu vois. Parce que quand tu parles des défis liés au code, c'est des éléments. Moi, je me souviens, j'ai un de mes petits frères. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants africains qui étudient à l'université...
Charanta
Diop. Ouais. Voilà. Et quand je parle avec eux, ils me disent que ils ont été pris par le poids de la culture. Et tu vois, depuis tout à l'heure, je fais ça parce que toucher avec ta main gauche des fruits au marché... Genre, le mec du marché leur tapait les mains,
Ok, mais après, il faut s'adapter aussi.
Ben oui, mais j'ai pas dit qu'il faut pas s'adapter.
Ah ouais, non, mais oui,
mais
évidemment.
C'est une réalité, tu vois.
Oui, je suis d'accord avec toi, effectivement.
C'est ça quand on parle.
Effectivement. Après, moi, j'ai rencontré aussi depuis quelques temps quelques entrepreneurs qui sont non sénégalais et qui font des trucs top, tu vois. Bah, Instabike, c'est trois cofondateurs.
Okay.
Ils sont pas du tout sénégalais. Il y en a un qui est togolais, l'autre qui est je sais plus quoi. Mmh. Et ils arrivent à faire plein de choses, tu vois.
Ouais.
Donc, je pense qu'après, c'est une histoire d'adaptation aussi, tu vois. Quand tu vas dans un pays aussi, il faut s'adapter.
Mais disons que quand tu as des pays où la culture est plus proche de la tienne, bah forcément, l'adaptation sera plus facile.
Plus facile, effectivement.
Tu disais tout à l'heure, tu vois.
Mais après, moi, je suis d'une double culture aussi. Hein, donc... Mmh. Je comprends la problématique des gens qui viennent, tu vois. Mmh. Je la comprends.
Mmh.
Mais les Sénégalais sont ouverts quand même, en fait.
J'ai pas dit qu'ils étaient pas ouverts.
Non, mais oui, mais justement, okay. Je réponds peut-être aussi à ça.
Ouais.
Les Sénégalais sont ouverts et pour moi, une intégration peut se faire avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de d'intelligence émotionnelle, en fait, tu vois. Et de pas forcément camper sur sa position, de moi ceci, moi cela. Au Sénégal, moi, combien de fois je suis allée dans des maquis. Enfin, tu vois, les gens, ils font leur truc, quoi.
Mmh.
Tu vois, et pourtant, ils sont dans le pays.
Ouais, d'accord. Quand tu dis maquis, c'est quoi? C'est des trucs...
Ivoirien.
C'est ivoirien? Mmh. Ok, d'accord. Mmh. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se préparer, justement, à retourner au Sénégal pour commencer?
Il faut préparer les finances.
Ouais.
C'est important. Il faut pas y aller au hasard. Il faut pas décider. J'entends beaucoup de personnes qui me disent, ça, je suis déjà installée. Ok. Et c'est quoi le plan? Il y a pas de plan. Tu vois. C'est important d'anticiper ça. La formation aussi, c'est important aussi. Je pense que aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises qui forment.
Mm-hmm.
Accompagnez-vous. Faites-vous accompagner. C'est important. Avoir aussi la compétence de réseauter, parce que pour moi, c'est une compétence.
Ouais.
C'est une compétence que j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans leur coin, qui sont pourtant sénégalais.
Mmh.
Et ça, c'est un problème, en fait.
Mmh.
C'est un problème si tu connais pas les réseaux, si tu sais pas... Pourtant, il y a plein de choses qui se font à Dakar, ou même sur la petite côte ou ailleurs. Il faut vraiment, vraiment sortir de sa zone de confort et comprendre aussi les codes du pays et les accepter.
Mmh.
Et les accepter. Sinon, et puis être curieux aussi. Ne pas forcément rester dans son truc, être ouvert. Et ça, c'est valable dans tous les pays.
Totalement. Et donc, il n'y a rien de spécifique au Sénégal. Toi, tu vois pas un truc
qui dit... Rien de spécifique au Sénégal. Peut-être parce que je suis sénégalaise, peut-être, je ne sais pas.
À ça, ou il faudrait...
on a un pays musulman quand même. Mm-hmm. On n'a qu'à se dire la vérité. On a quand même un pays musulman. Donc, effectivement, quand on a des employés qui coupent leur journée pour aller prier, ça, c'est la base, en fait. Faut pas que ça choque.
Ouais.
C'est quelque chose qui est normal.
Mm-hmm.
T'as des petites choses, la main gauche. Enfin, tu sais, c'est des petits trucs comme ça, parce que, on est dans un pays principalement musulman. Donc, avec beaucoup d'intelligence, en fait, et beaucoup de... Sans flip, quoi.
Ça se fait, quoi. Combien d'années de trésor il faut pour partir, selon toi?
Pour moi, il faut un an d'économie.
Un an?
Ouais.
C'est suffisant?
Un an d'économie. Si tu pars avec des enfants, un an d'économie, c'est bien.
Mmh.
Anticiper les écoles aussi, parce que ça coûte cher au Sénégal.
Ouais.
C'est des écoles privées. Sinon, un an de loyer aussi. Un an de loyer.
Un an d'économie en plus du loyer, en plus de l'école ou...
Non, tout ça, c'est dedans.
Ah, ok.
Là, je suis en train de spécifier.
Ouais, c'est les
mais,
postes.
Mais c'est les gros postes, en fait.
Bien anticiper.
Exactement,
ouais.
Exactement. C'est ça qu'il faut anticiper. Qu'est-ce qu'on peut anticiper encore d'autre? Y aller souvent avant d'y aller, ouais. Ça c'est bien aussi. Pour un peu s'imprégner de ce qui se passe aussi. Voilà. C'est ça. Hein. Un an d'économie, pour moi, c'est bien. Quand on inclut tous les gros postes.
D'accord. Bon, ça va. Moi, je pensais à 2 ans. Tu vois. Donc,
un an, c'est bien. Tu peux
un an, c'est déjà bien.
Ouais.
Ok. Top. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé sur le Sénégal? Un point que tu dis, il ne faut pas qu'on termine sans qu'on ait abordé ce point-là, que les gens sachent ça.
Non.
C'est toi, hein, qui sais. Hein.
Non. Non.
Je pense avoir tout balayé, mais.
Non.
Je préfère encore faire le point. Non. Qu'est-ce qui t'intéresse à rejoindre Black Network? Pourquoi ça t'intéressait? Qu'est-ce que ça peut t'apporter, Black Network?
Alors, moi, je suis très adepte, et je pense que c'est ça un petit peu qui nous relie, au fait d'être ensemble, de fédérer. J'aime beaucoup ça, et c'est le propre d'Autour de Marie. Mmh. Donc ça s'appelle Autour de Marie, d'ailleurs. et ouais, c'est ce que j'aime chez Black Network, c'est que... Et puis en plus, ce qui est génial, c'est qu'on retrouve d'autres entrepreneurs.
Ouais.
Ça nous permet aussi d'être dans une communauté, parce qu'être entrepreneur, c'est extrêmement difficile.
Ouais. Tu te sens seul?
On se sent seul.
Ouais.
On se sent très seul malgré le fait que je sois toujours entourée.
Mmh.
Mais je pense que tout entrepreneur qui se respecte sait à quel point on est seul. Et donc, d'être dans une communauté d'entrepreneurs, d'avoir un peu ce cerveau collectif, ce sont des valeurs qui sont chez moi et que je retrouve chez Black Network.
Mmh.
Et puis, pouvoir aussi se fédérer entre eux, gens de la communauté, c'est important.
Mmh.
Ça donne de la force. Et puis, ça montre aussi une image. Une belle image de la communauté africaine et j'ai envie de faire partie de cette image-là.
Merci. Tu as bien vendu le
<T'as>
truc. Tu as fait ma pub.
En tout cas.
Où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on te contacte?
Sur
toutes les
réseaux,
infos. Quels sont les réseaux où tu es vraiment efficace? Parce que LinkedIn, on publie, mais on ne te voit pas beaucoup.
Ouais,
là-bas.
LinkedIn, je ne suis pas très efficace, j'avoue. Je ne suis pas
c'est
très
ça,
efficace sur LinkedIn. Je ne suis pas comme toi. Toi, tu es champion de LinkedIn.
C'est ma vie.
Toi, c'est ta vie. C'est ça.
LinkedIn me voit plus que ma femme.
Toi aussi, c'est vrai à ce point-là.
Je rigole.
Il faut qu'on se revoie alors.
Je rigole. Non,
alors,
où est-ce qu'on
se retrouve? Instagram, beaucoup sur Instagram.
Ok.
Je vais quand même commencer à arriver sur LinkedIn, parce qu'il faut être sérieux quand même.
Mais
beaucoup sur Instagram.
Ok, donc Autour de Marie, Autour underscore, il n'y a pas d'underscore. Y a
si.
Pas. C'est ça, hein. Autour underscore de Marie, M-A-R-Y.
Y.
C'est ça.
C'est ça,
ok.
C'est ça.
Mail, tu veux pas, t'as un mail où on te contacte?
Non, tout est sur mon Linktree.
Tout est sur mon
Linktree.
Ok.
C'est ça, exactement.
Top. Ok. Prochain départ pour Abidjan, c'est
Dakar.
Quand? Merde, c'est vrai. Tu vois? Tellement je suis...
Non, ça veut dire qu'Abidjan, on arrive bientôt.
Ah Inch'Allah, comme on dit,
oui,
tu vois.
Oui, Inch'Allah, c'est ça, on arrive bientôt.
D'accord.
Prochain départ pour Dakar du 13 au 21 avril.
Ok. Et
cohorte
après
numéro 4.
Ok. Et t'en fais une par an?
J'en fais une par an. Là, c'est la Nelson Mandela, parce qu'elles ont toutes des noms. Nelson Mandela, et on prépare la prochaine cohorte quand je reviens, parce qu'il y a tellement de choses qu'on doit gérer là pour le voyage. Donc toute personne qui a envie de se lancer, qui ne sait pas par où commencer, qui a envie d'être encadrée, parce que c'est surtout ça qui manque, passer par Autour de Marie. On a une prochaine cohorte là, qui va commencer au mois de novembre.
Ok, parfait.
C'est ça.
Marie, je te remercie.
Je t'en prie, merci à toi.
Ben, avec grand plaisir,
ouais.
Hein, tu vois, on a dit, on a fait.
Voilà. Donc, j'espère qu'on se reverra à un autre moment.
Il n'y a pas de raison, maintenant que tu es dans la famille,
je
on va se voir souvent,
c'est
tu vois.
Ça.
Voilà. Et ben, à tout, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique, comme j'aime bien dire. Et d'ici là, revoyez vos ambitions à la hausse. Ciao tout le monde. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Pendant l'écoute, vous vous êtes sûrement dit que ce contenu pouvait intéresser un de vos proches. Eh bien, partagez. C'est ce qui va nous aider à faire grandir le podcast. Si Black Network vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre. On apporte à nos adhérents du réseau, de la visibilité, de la formation et plus largement, en tout cas, des opportunités.
Les ambitieux sont chez Black Network. La réussite est notre objectif, l'Ubuntu est notre moyen de l'atteindre. Peace.